Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut Monsieur Cissé, j'espère que tout va bien mon pote. Dis-moi, je te fais cette note parce que figure-toi que j'ai été voir aujourd'hui un match de district. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas été confronté au monde amateur et ça m'a donné une idée. Je pense que ce serait pas inintéressant de faire un épisode sur ce foot-là, où est-ce qu'il en est, les rapports avec le foot pro, avec les instances, etc. Est-ce que ça te chaufferait sur le principe?
Ouais Matt, bah off course, bien entendu, moi je suis plus que motivé pour parler du football amateur, vu que j'en viens, comme d'ailleurs 9 dixièmes des joueurs professionnels, donc on doit beaucoup au football amateur. Écoute, si t'as déjà des noms, propose-les, moi j'en ai aussi, mais off course, carrément motivé. Quoi.
J'avais pensé au président du club amateur qui a le plus de licences en France, le FC Rueil. Il s'appelle Jérôme Bourreau et je suis certain qu'il aura beaucoup de choses à partager. Donc si ça te va, je vois avec lui pour qu'on se calme un moment.
Fuego, 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 fuego.
C'est bon, je l'ai eu, il est d'accord, c'est booké. Écoute, je t'envoie les détails sur le créneau et on se voit au studio. Allez, je t'embrasse, ciao.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Alternative Football, le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu-Lille Palette.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ou numéro, Monsieur Cissé. On dit quoi? On dit un épisode? On dit un numéro?
On dit un épisode.
Alors le nouvel
Moi, je dirais
épisode.
Un épisode.
Alors l'épisode, le nouvel épisode d'Alternative Football, le 22. Et on a le plaisir de recevoir Jérôme Bourreau, qui est le président du plus grand club de France. C'est comme ça qu'on peut le dire, Jérôme.
Ouais, je dirais presque le plus gros, pas forcément le plus grand.
Ah, il y a quand même une
vraie alternative,
ouais. une vraie nuance. Bienvenue, Jérôme, qui est donc président du FC Rueil Malmaison, qui est le club amateur qui a le plus de licenciés en France. C'est ça?
C'est ça. On se tire la bourre avec un club comme l'Atlético,
ouais,
dans le 13e, donc pas très loin de chez vous. Ouais. Et on est à quelques licenciés, quoi, à moins de 10 licenciés. Un coup c'est eux, un coup c'est nous, quoi. Ouais. Ça.
Donc c'est chaque saison le titre est remis en jeu.
Voilà, est remis en jeu. C'est pas forcément un objectif, mais bon, on y est, donc.
C'est symboliquement quand même, c'est sympa.
Oui, d'ailleurs, si je suis là, c'est un peu grâce à ça.
C'est exactement.
Pas que.
On aime
bien la vie de Rueil.
C'est ça.
Je voulais que tu nous expliques un petit peu les beaux endroits dont je plaisante.
Une ville que tu connais bien par ailleurs, mais ça ne nous regarde pas.
Tout en fait, bien entendu.
Alternative football.
Le sujet qui va nous intéresser, messieurs, aujourd'hui, c'est bien entendu le football amateur que tu connais bien, Jérôme. Et la question, la problématique, la traditionnelle problématique alternative football, c'est celle-ci aujourd'hui. Foot pro et foot amateur sont-ils réconciliables? Qu'est-ce que ça t'évoque, Jérôme?
C'est réconciliable, oui, forcément. On parle de football, donc il y a toujours une passerelle. Par contre, on s'aperçoit que quand on voit les enjeux financiers qu'il y a dans le foot pro et ce qui se passe dans le foot amateur, on est loin d'une concordance. Quoi. Mmh.
Qu'est-ce qui vous manque? Des moyens?
Forcément.
Et pourtant, on dit que le football amateur, l'argent ruisselle. En fin de compte, la Ligue et même certains clubs donnent de l'argent au football amateur. C'est vrai ou pas vrai?
Franchement?
Pas assez.
Ouais.
Pas assez, quoi. J'ai envie de dire, pour nous, c'est des poussières. Quoi.
C'est des poussières.
C'est faux. On entend beaucoup de choses, mais dans la réalité... Concrètement, on ne voit pas, ce reversement des biens. Quoi.
Comment tu vois les choses? C'est-à-dire, quand tu vois les sommes, quand tu entends les sommes pour les transferts ou pour les salaires, tu te dis, mais purée, mais avec même ne serait-ce un centième de ce qu'ils donnent pour un transfert, on ferait fonctionner le club, mais de manière extraordinaire.
C'est évident, c'est évident. C'est...
Parce que c'est quoi le budget de fonctionnement de Ruyem Almaison?
Ah, on est
une fourchette.
Une fourchette.
Ou une cuillère.
Entre 400 et 600 000 euros.
D'accord. Et là, il y a combien d'équipes?
On a 33 équipes engagées. Ouais.
33 équipes. Et comme Mathieu parlait du nombre de... Enfin, il n'a pas dit exactement, mais combien d'équipes?
On est à plus de 1500 licenciés.
1500 licenciés.
Ouais. Donc, ouais, et donc, tu disais 600 000, à peu près 600 000 euros de budget. Sur ce budget-là, est-ce que tu as une idée de combien est imputable au football professionnel? Combien vous revient de ce monde-là via, j'imagine, soit les subventions, soit... Est-ce que vous avez une manière de le calculer comme ça? Est-ce que vous avez beaucoup de clarté sur vos financements? Ou est-ce que c'est difficilement palpable ce qui vient directement du foot pro?
Mais du foot pro, en fait, entre guillemets, le seul rejet, ouais, c'est quand on arrive à former un joueur. D'accord. Et qu'il signe un contrat dans une structure professionnelle.
Et vous récupérez la nuitée de formation.
Et à chaque transfert de pays étranger, il y a un retour direct. Et c'est vraiment les seules ressources intéressantes que l'on a aujourd'hui dans le foot amateur.
D'accord.
Donc ça limite très peu de clubs et de joueurs.
Donc grosso modo, le business model entre guillemets, d'un club amateur... C'est quoi les gamins, ils jouent jusqu'à quel âge chez vous? Et puis après, ils sont chassés par des structures pro, j'imagine.
Alors, pour moi, c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils sont chassés à tout âge.
Ouais, de plus en plus jeunes.
Dès 7 ans, quoi. C'est hallucinant, quoi.
Dès 7 ans?
Dès 7 ans, il y a déjà des... Alors, pas forcément des structures pro, mais les clubs plus intéressants. On va pas parler du PSG ou des gros clubs qu'il y a dans l'Île-de-France, comme la CBB ou le Racing.
Ouais, c'est ça, pour vous, en 92.
Ils commencent déjà à venir chercher dès le plus jeune âge. Quand aujourd'hui, vous allez sur un site IDF de football, vous avez des détections dès les U7, U8, U9, U10, U11. Et c'est ce qui se faisait pas trop avant, quoi. Mmh. Avant, les gens allaient à droite, à gauche ou... regarder l'encadrement et était intéressé par un club supérieur. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour aller chercher toujours en dessous pour essayer de choper les meilleurs éléments, quoi.
Et c'est un phénomène qui est relativement récent, c'est-à-dire que...
Ça fait un bout de temps déjà.
D'accord.
Ça fait un bout de temps. Après, phénomène récent, c'est on commence de plus en plus tôt. On commence de plus en plus tôt et ça me dérange un peu, quoi.
On commence la pratique de plus en plus tôt, on commence à détecter justement les potentiels futurs.
On commence à détecter et surtout on enlève des enfants d'un environnement
plaisir
quotidien, quoi. Ouais, plaisir. Et puis surtout même commode. Ouais. Au bout d'un moment, les gens viennent dans leur club de leur appartenance par rapport à leur ville et leur domicile. Et aujourd'hui, on enlève des gamins de leur structure scolaire où on va aller sur davantage d'entraînement, donc ils vont être amenés à faire plus d'entraînement à l'extérieur, donc aller plus loin, donc commencer déjà de mettre de côté un peu le scolaire, et là je pense que les parents font fausse route.
Ouais. Et par rapport à ça, c'est vrai, mon gamin a fait il y a 2 semaines un tournoi à Caen, et là il y avait pas mal de clubs professionnels qui s'entraînent 3 fois par semaine, ils ont 10 ans, 3 fois par semaine plus le match, donc ça fait 4 fois.
4 fois.
4 fois. Mon fils, il fait qu'un seul entraînement. 4 entraînements par semaine, ça veut dire que... Et puis c'est de 17h jusqu'à 19h. Donc c'était lundi, mercredi, jeudi. Et le samedi. Ouais, et le samedi plateau. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'heures de foot et peu d'heures d'école. Hein, parce qu'il y a la fatigue. Et...
C'est la fatigue surtout. Parce que les heures scolaires, ils ont toujours le même emploi du temps. Sauf que y a plus autant de temps pour faire les devoirs et au bout d'un moment, le repos, il est important.
Et vous, à Rueil, vous êtes sur la même fréquence ou pas du tout?
On est entre les deux. On est entre les deux, c'est-à-dire que... Alors, pour aller sur Rueil, on a quand même, nous, partagé toute cette masse de joueurs en 2 parties. Une partie compétition et une partie loisir.
D'accord.
Par contre, ça commence qu'à partir des U12.
La compétition. Enfin, la session.
La session, disons, quand à partir des U10... On est déjà en compétition.
Okay.
Donc U6, U7, U8, U9, c'est l'école de foot. Donc nous, tout le monde est mélangé. Et même si on fait des groupes de niveau pour qu'il y ait une évolution intéressante de la progression des joueurs, à partir des U10, on commence à scinder la compétition et le loisir.
D'accord.
Parce que ce qui fait notre richesse, c'est nos infrastructures, et merci la ville de Rueil-Malmaison, et le fait qu'on accepte toute personne qui a envie de jouer au football.
Ça, je pense que c'est un point très important, parce que notamment, tu vois, quand t'es gamin, je trouve ça hyper violent, dans des clubs même de district, hein, d'entendre que des fois, des enfants se font... doivent passer un test.
Les détections.
Tu vois, une détection pour savoir si le gamin peut aller jouer dans un club qui a une équipe fagnon en 3e division de district.
Alternative football.
Tu parlais des parents et de leur rapport enfin, je sais pas si c'est nécessairement leur rapport au football, mais le fait que leurs enfants peuvent être approchés très jeunes. Quel est le type de dialogue que vous arrivez à avoir avec eux? Est-ce que tu es entendu quand tu proposes ça aux parents? Est-ce que quand tu leur dis non, mais si votre enfant progresse, il y aura un âge pour partir d'Hurway potentiellement et être formé. Est-ce que ça c'est encore audible auprès des parents, ou est-ce que ça fait beaucoup de ce que, mais ou est-ce que les exemples de footballeurs qui sont arrivés professionnels tard ou simplement l'inverse, les exemples de jeunes qui jouent très tôt en pro, c'est ça qui les intéresse et qui les omnibule, et c'est difficile d'être entendu.
Aujourd'hui, malheureusement, l'apport financier, quand votre enfant réussit, ça fait tourner la tête aux parents, quoi. C'est dramatique. Donc nous, on leur dit, voilà, c'est notre intérêt, c'est que, pas notre intérêt, c'est que le gamin prenne du plaisir, mais c'est qu'on ne le sorte pas de son quotidien. Il est à l'école à côté, il a sa vie à construire, et mettre tout simplement dans le football alors qu'on est encore dans le foot amateur, c'est un risque un peu, c'est un pari. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui font le pari que leur gamin va réussir et mettent d'ailleurs des choses... en action. Aujourd'hui, même dans le foot amateur, je vois des clubs ou même chez nous, des parents qui sont capables d'amener une structure professionnelle sur leur enfant, avec un préparateur physique.
Ah non, une structure, un staff.
Un staff, quoi.
Déjà, dès l'âge de quel âge?
Bah là, on va peut-être pas aller sur du 6, 7, 8, mais ouais, des 10, 12, quoi. Ça...
10, 12, alors ouais. qu'il y a la croissance qui n'a pas joué encore.
C'est évident.
C'est du fantasme. C'est quoi le parcours d'un gamin de Rueil? Donc, il commence à 6, 7 ans. Et... Vous pouvez espérer le garder jusqu'à quel âge?
Bah nous, bon, on espère le garder
le plus loin possible. Mais vous avez pertinemment que. C'est quoi? Vous avez des U15, vous avez des équipes nationales ou pas?
Alors, donc l'école de foot, c'est entre 6 et 9, donc ça, c'est mélangé. Mmh. Donc, après, on part sur du championnat, donc on est en championnat régional sur les équipes U10, U11, U12.
Ok.
Après, donc, on passe en deux années d'âge, où on appelle ça les U14.
Ouais.
Donc, les U14, on est en régional. Les U18, on est en régional. C'est notre équipe la plus haute, parce qu'elle est en R2. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, la R2, c'est le pile milieu de la région.
Ouais.
Parce que trois divisions régionales, R1, R2, R3. En U18, avec les modifications, on était un peu plus en dessous, mais là, on monte encore, donc on va se rapprocher de la région aussi. Et en senior, on est aussi en région.
Donc, en fait,
on est vraiment un club...
Vous êtes un très bon club de région.
Voilà, très bon, j'ai envie de dire, très bon club départemental.
Okay.
Moyen régional, en espérant toujours aller le plus haut.
Mais aussi. Le problème, c'est que, si je dis ça, c'est parce qu'on doit vous piller des bons joueurs. Parce que justement, si je te parlais des équipes en national, c'est parce que le U15, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui disent « Mon fils, il faut qu'il joue en U15, U15, c'est le niveau national où on peut jouer contre les centres de formation, les équipes de clubs professionnels. » Et donc, vous pouvez les garder peut-être jusqu'en U14, U13, et puis après, c'est à ce moment-là où je pense qu'il y a des clubs qui viennent se servir.
Même avant, leur intérêt, c'est qu'ils partent...
Le plus tôt possible pour rentrer.
Le plus tôt possible, quoi.
Je reviens sur ça, parce que je suis sidéré par le truc. Tu as eu, toi, des parents qui sont venus, qui ont accompagné leurs gosses, et il y avait un prépa physique?
C'est rare chez nous, parce que nous, on reste un club moyen, mais dans les clubs où il y a des NAS ou autres, même quand ils sont plus petits, avant d'aller jouer en U15 NAS, ils mettent un staff, une structure pour que leur gamin performe dès le départ, quitte à l'enlever de son milieu scolaire ou autre, quoi.
Et toi, tu as déjà eu des discussions avec ce type de parents qui venaient te voir en disant « Moi, mon fils, il va faire ceci et cela. » Enfin, t'as des exemples de parents qui sont venus vraiment te voir ou voir un de tes éducateurs et dire « Le plan de carrière de mon fils, c'est ça, donc on voudrait le mettre en action. » C'est des discussions qui reviennent souvent ?
Pas souvent, mais ça arrive, quoi. Ouais. Ça arrive. Mais j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez commencé à goûter un centre de formation, vous êtes en as, forcément, vous pouvez commencer à aller vers des objectifs un peu plus hauts et aller vraiment vers le monde professionnel. Mmh. Sauf que nous, on est en foot amateur, on est en région, en département, et qu'au bout d'un moment, les parents sont complètement déconnectés de la réalité. Les exemples à la N'Golo, qui a été dans un club amateur à côté de chez nous, en plus, il est Rouillois.
Sur Rennes, c'est ça ?
Oui, il était à Sur Rennes, ouais. Et en fait, les parents se disent... Peu importe quel niveau aujourd'hui joue mon fils, il a quelques qualités, moi je veux qu'il aille au maximum. Alors au bout d'un moment, j'ai aussi le problème de les parents, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire vivre ce qu'ils n'ont pas vécu en tant que footballeur, et qu'à travers eux, ils essayent de trouver un échappatoire un peu à leur vie.
Oui, ils transposent.
Ouais.
Et je reviens sur ça, mais du coup... Comment toi tu l'approches en tant que président de club? Est-ce qu'il y a des réunions d'information par exemple en début de saison? Est-ce que le dialogue avec les parents, vous arrivez à mettre en place quelque chose de régulier, de solide, ou est-ce que ils veulent même pas avoir ces discussions là, ils sont dans leur projet et ils embarquent leur enfant dedans?
C'est compliqué. On essaye, on leur montre que statistiquement, j'ai du mal. Hein.
Oh, ça m'arrive très souvent, t'inquiète pas.
On voit que le pourcentage de réussite est vraiment limité, donc on leur montre, on leur dit attention, si ça marche pas dans le football, aujourd'hui il est pas. On essaye d'avoir toujours des comparaisons.
Ouais.
Aujourd'hui, il fait partie d'une équipe de Rueil. Est-ce que c'est le plus fort de l'équipe ? Est-ce qu'il est vraiment au-dessus du lot ? Donc déjà, on essaye de faire redescendre un peu le ouais. potentiel, même si on a déjà eu quelques pépites aussi.
Ouais, bien sûr.
Et donc, rapidement, ils sont partis dans des structures professionnelles. Mais il y a ce discours à dire, attention, aujourd'hui, ce n'est pas le plus fort du groupe, et des échelons au-dessus, il y en a plein. Donc, quand tu n'es pas le meilleur, c'est comme dans une classe, on ne saute pas une classe quand on n'est pas le meilleur.
Ouais.
Et ça, c'est le problème. Donc, on leur dit, attention, parce que si vous l'enlevez de son milieu scolaire, de ses amis, est-ce qu'il va s'épanouir ? Est-ce qu'il va construire sa vie à côté ? Et c'est surtout, le jour où il y a un échec dans le football, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui reste ?
Et là, on parle de gamin de 14 ans, hein, c'est ça, hein, 13-14 ans.
Oui, oui.
C'est hallucinant.
Oui, oui.
13-14 ans. Alors, pour tout te dire, moi, de temps en temps, j'ai des parents que je croise et qui me disent « Ouais, mon fils, il a 12 ans, il faudrait que tu puisses venir le voir et tout ça. Parce qu'il est pas mal, hein. Il est bon. Hein. » Et je dis « Super, mais s'il est bon, qu'il continue à être bon, quoi, qu'il s'éclate. Mais 12 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il a pas grandi. On sait même pas si dans 2 ans, il aimera toujours le foot. Et tu vois, comme tu dis... dans les yeux du papa ou de la maman, le transfert. Et c'est flippant. Mmh. Puis après, malheureusement, on a eu des exemples extraordinaires. Le clan Mbappé, ça peut paraître flippant, mais lui, il a été drivé depuis tout petit, quoi,
ouais.
À être ce qu'il est. Et donc, les parents, ils disent, mais si Mbappé est super fort, il a fait ça, donc on va utiliser la même méthode. Sauf que des Mbappé, même sans la méthode,
ouais,
il avait un phénomène, quoi. Il avait quelque chose, quoi. Et ça, tout le monde n'accepte pas que il y a des exceptions.
Alternative football.
Pour répondre aux problématiques qu'on évoque, on se dit, est-ce que l'idée, c'est pas aussi de travailler avec une structure pro ? Et on parlait en intro de réconcilier les deux milieux pour que, relativement tôt, via le club amateur, les parents soient confrontés aux pros et que les ambitions peuvent être tempérées et que les meilleurs soient effectivement détectés au bon moment. Vous le voyez comment ça ? Ouais, est-ce que vous bossez avec des clubs ? J'imagine que quand on a autant de volume de joueurs, on est forcément contacté par des clubs pros pour ne serait-ce que des détections. Comment ça se passe vos relations avec les clubs, s'il y en a ?
Alors nous, on en a une. Hein, on a un vrai partenariat avec l'Olympique Lyonnais.
Ok.
Hein, donc ça nous permet surtout de former nos éducateurs et d'être alertés pour toute dérive vers le monde professionnel.
D'accord.
Donc on a un vrai échange. Et...
Ça c'est intéressant. Le premier objectif, c'est la formation des éducateurs. C'est
ouais,
ça.
Ouais.
Donc c'est pas aller chercher un joueur à Rueil, c'est on va vous accompagner sur être de bons éducateurs et aider les...
Après ça nous va, parce que pour moi, il n'y a pas de... Souvent, l'équipe est à l'image de ton coach. Donc au bout d'un moment, si on n'a pas des bons éducateurs, bien formés, bien structurés, au bout d'un moment, ça va vers des dérives autour des terrains.
Mais comme la Ligue, ou même la Ligue de Paris, elle vous aide pas à former les éducateurs? Il y a des diplômes à passer.
Alors, ils nous aident pas à former les éducateurs. Ils forment les éducateurs.
Il faut payer, quoi, c'est ça?
Il faut payer.
Voilà.
Et puis deux, au bout d'un moment, c'est vraiment structuré, c'est que du papier, quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté. De toute façon, quand on le voit, moi j'ai passé des formations d'entraîneur. Au bout d'un moment, vous formez pas des jeunes. Vous êtes sur une formation jeune, vous encadrez les cobayes, c'est les futurs éducateurs. Donc déjà, on n'est déjà plus dans la réalité. C'est au bout d'un moment, c'est plus théorique que pratique. Et là aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire, quoi.
Ok, la pratique. Et donc, là, on a parlé des, donc les formateurs de Lyon, enfin, ou les éducateurs de Lyon qui viennent et driver un petit peu les jeux. Les deux,
ils nous font des séances type.
Okay.
Ils viennent chez nous, ils sont venus, ils viennent régulièrement chaque année. Ils viennent monde professionnel, donc aussi bien féminin que masculin, démontrer une séance type, montrer l'acheminement. Et puis nous aussi, on envoie des éducateurs voir comment ils travaillent, etc. Et c'est vraiment un échange super intéressant et enrichissant.
Ah ouais, ça c'est, j'imagine. Et du coup, peut-être qu'il n'a pas été, c'est pas tacite, mais vos meilleurs espoirs peuvent aller à l'OL.
Ça fait partie du partenariat. Quand nous, on a un bon joueur, en priorité, il est proposé à l'Olympique Lyonnais. Ce qui n'empêche pas derrière, après, qu'il fasse autre chose.
Ouais,
mais okay. on leur proposera en exclusivité.
D'accord, vous le m'apprenez. D'accord, très bien. Et comment on peut devenir le meilleur club amateur de France? Au niveau des licenciés, au niveau...
Non, c'est un tout. Je pense qu'on doit allier le nombre de licenciés et le nombre d'équipes au plus haut niveau. Aujourd'hui, nous, on s'attelle à ça, c'est de faire grandir nos équipes et de les faire monter dans les divisions supérieures. Alors maintenant...
Qu'est-ce qui vous manque alors? Donc c'est arriver à garder les bons joueurs. Parce que vous avez sur 1600 licenciés, c'est quand même pas mal. Donc c'est quoi? C'est garder vos meilleurs, parce que je pense qu'ils doivent être chassés.
C'est exactement ça. Donc ça, c'est une problématique. Et après, au bout d'un moment, on est toujours retenu par un problème de moyens, quoi.
Ok.
C'est au bout d'un moment, pour encadrer de plus en plus haut, c'est des éducateurs qui reviennent de plus en plus chers. Et au bout d'un moment, ça, c'est problématique, quoi.
Et dans le partenariat avec l'OL, est-ce que c'est pas un partenariat financier? Ça pourrait le devenir,
pas
ou pas? C'est pas dans leur intérêt?
C'est pas forcément dans leur intérêt, parce que ça reste... Ils seraient obligés de multiplier, parce qu'on n'est pas le seul partenaire de l'OL.
Ouais.
Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas trop leur intérêt. C'est déjà... Je pense qu'il y a un bon partage, qu'au niveau de l'encadrement, et on essaye de grandir ensemble. Enfin, surtout nous.
Ouais.
Mais... Peut-être qu'un jour ça viendra. Après, moi, j'ai envie de dire, sur un futur un peu plus lointain, je suis plutôt inquiet, parce qu'aujourd'hui, le foot amateur, il vit, avec ses cotisations, avec le budget,
c'est ce que j'allais te demander, ouais.
le budget des mairies.
D'accord.
Et encore une fois, on est assez bien lotis au niveau de Rueil-Malmaison, même si on est loin d'être dans les plus hauts. Hein. Mais aujourd'hui, on sait que la conjoncture va faire que les mairies vont donner de moins en moins. Les terrains vont peut-être devenir,
plus rares,
pas aussi gratuits qu'à une époque.
Okay.
Donc aujourd'hui, je me dis que le foot amateur, il va pas mourir, mais ça va devenir de plus en plus professionnel. Parce qu'après, notre levier, c'est quoi? C'est devenir professionnel au niveau des cotisations. Au bout d'un moment, votre gamin, au lieu de payer, je sais pas, on va dire, une moyenne de 250 euros pour une licence avec équipement...
Ce qui aujourd'hui est le coût à peu près dans les clubs.
À peu près, en tout cas chez nous.
Okay.
On va arriver sur des cotisations à 500-800 euros, comme au tennis, pour payer les éducateurs et autres, quoi.
Ouais, donc ce que tu proposes, le fait de proposer un foot accessible à tout le monde, il va devenir économiquement discriminant, parce que tu as de moins en moins de moyens, et c'est ça le danger, selon toi. Et typiquement, dans le budget dont tu parlais, donc tu parles effectivement des licences et des subventions, c'est quoi? C'est 50-50? Il y a un peu de sponsors aussi?
Non, c'est plus la subvention.
C'est la subvention.
Aujourd'hui, un joueur, on ne gagne pas d'argent sur un joueur.
D'accord.
Chez nous.
Okay.
Si on ne gagne pas, entre le fait de l'engager dans des compétitions avec la somme des organisations, de l'arbitrage, des falquements, des éducateurs, l'équipement qui est, au bout d'un moment, on a un très bel équipement, mais ça coûte forcément.
Ouais. Entretenir.
Et ben, sur un joueur, on ne gagne pas d'argent. Donc, on n'arrive pas à sortir quelque chose. Donc, derrière, heureusement, on a quelques sponsors, des sponsors sympas, mais ça se fait rare aussi. On essaye de travailler dessus et c'est un de nos apports, mais entre guillemets, après, au bout d'un moment, quand on commence à monter en division, les gens commencent à demander de l'argent, même au niveau des joueurs.
Oui, les primes.
Voilà, aujourd'hui, on a des féminines en R1, on a des seniors en R3. Y a des primes de match pour les équipes Fagnon.
D'accord.
Et donc ça, c'est un coût, donc il faut qu'on ait en plus des moyens derrière. Quoi.
C'est un peu le chat qui se mord la queue, dans le sens où tu disais que pour pouvoir progresser en tant que club, il te faut de meilleurs éducateurs, mais plus les éducateurs sont bons, plus le salaire qu'ils vont demander, ou je ne sais pas si tu as des éducateurs en CDI, mais plus leur coût va être élevé. Ça coûte combien à peu près un éducateur, d'ailleurs
C'est des défraiements principalement.
Voilà, c'est des défraiements.
Non, c'est des défraiements. T'as pas d'éducateurs à votre niveau. Il y a pas d'éducateurs qui sont en CDI, qui sont là et qui ne font que ça.
On a 3-4 éducateurs en CDI.
En CDI, ouais. D'accord. Ok. Donc sur une équipe de combien d'éducateurs?
Je t'ai dit 33 équipes, donc ça doit approcher à peu près une trentaine d'éducateurs.
Quoi. D'accord. Okay.
Le truc, Mathieu, il faut que tu comprennes, c'est pas structuré comme un pro. C'est-à-dire parfois, tu as déjà des entraîneurs qui peuvent venir et donner un coup de main. Et puis quand t'es trop bon ou quand t'es bon, t'es chassé aussi, même quand t'es un éducateur, un formateur, t'es chassé, on va te dire je vais te payer ta formation et puis l'éducateur ou le formateur, il a aussi des rêves, il a des rêves aussi, donc s'il y a un club un peu bankable qui vient le chasser, qui vient le recruter, il va vouloir travailler pour travailler avec des meilleurs joueurs, peut-être pas nécessairement des meilleures structures, mais des meilleurs joueurs, parce que chacun a des rêves, et c'est ça qui est compliqué, et surtout pour vous les clubs amateurs, c'est qu'à partir de 13 ans, il y a des préformations. Il y a des centres de préformation. Où toi, tu expliques qu'il faut payer 250 euros généralement pour la licence et tout ça. Dans les clubs professionnels, donc il y a des préformations, où là, tu payes pas. Où là, c'est le club qui dit aux parents, vous venez, vous déposez votre enfant et tout est OK. Donc ça, c'est aussi compliqué aussi qu'à 13 ans de garder les joueurs. Dire aux parents, non, laissez-le à Rueil. Par contre, c'est 250 euros ou 300 euros l'année. Parfois, c'est 300 euros, ça pique pour certaines familles. Donc, c'est pas évident. Il y a aussi ce paramètre, créer un club, créer un esprit famille. Et à côté, il y a le milieu professionnel qui, à un moment donné, c'est pas évident. Ça doit pas être évident. Mais du coup, t'as réfléchi aux alternatives que vous pouvez proposer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que le monde professionnel ne fera rien, en fin de compte, parce qu'il va continuer comme ça. Mais c'est surtout le milieu amateur qui doit prendre les choses en main et proposer des choses.
Alors, pour compléter ton excellente question, parce que moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'on parle, si tu veux, de l'écart qu'il peut y avoir entre le pro et l'amateur. Mais ce que je remarque surtout, pour avoir arrêté de jouer en football amateur il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est que je trouve que le fonctionnement du club amateur, et tu parlais de détection de gens qui partent, d'éducateurs qui partent dans les clubs, etc., se professionnalise vachement. Mes souvenirs de foot amateur, c'est plus un éducateur, il est là depuis 20 ans et puis il y reste parce que c'est le club du coin, il est attaché au club, il a ses habitudes.
C'est ton histoire, ça, tu pourras raconter, ouais. C'est ça.
C'est ça. C'est quoi comment on régule tout ça, en fait?
Déjà, au bout d'un moment, y a des gens qui sont vraiment liés à un club, à une histoire. Moi, je suis Rueillois, ça fait 40 ans que je suis au club, donc j'ai fait toutes les catégories. C'est un club que j'aime bien. En même temps, les infrastructures t'amènent à rester à Rueil-Malmaison parce que c'est le bon vif, quoi. Et puis, au bout d'un moment, quand t'es bien, au bout d'un moment, t'as ta vie à côté. Ça restait un loisir pour moi, même si j'ai joué à un niveau correct et entraîné des bons petits joueurs. Mais au bout d'un moment... si je pense qu'on va arriver à un problème, c'est que avant il y avait des bénévoles, des gens qui venaient aider et ça te coûtait pas parce que c'était bénévole. Sauf qu'aujourd'hui le bénévolat il est en train de s'évader quoi. Et ça c'est une vraie problématique. Et nous aujourd'hui on parlait qu'est-ce qu'on peut faire pour entre guillemets continuer à aller vers une ascension. C'est améliorer le sponsoring, mais surtout trouver des bénévoles pour qu'on puisse faire davantage de choses quoi. Parce qu'aujourd'hui la problématique c'est que quand tu fais quoi que ce soit, t'es obligé d'effrayer des gens pour accompagner. Et ça te coûte énormément. Et c'est chez nous.
Mais pour toi, donc, la solution viendrait sur plus de bénévolat, donc c'est-à-dire plus de travail gratuit, plutôt que éventuellement que ça vienne des professionnels Parce que les professionnels, il y a la Ligue, j'ai cru voir qu'il y avait un fonds qui allait arriver, qui allait donner des sous-sous.
Mais tu as bien cru.
Voilà, donc, et qui allait injecter de l'argent, et que dans la communication, c'est bon, cet argent va profiter à un maximum de personnes. Un petit peu à tout le football, la famille du football. La famille du football, elle s'arrête où, au pro ou elle s'arrête au niveau des amateurs?
Je ne sais pas.
Parce que c'est ça, en fin de compte, vous avez besoin d'argent.
Parce que
c'est très difficile maintenant de convaincre des gens de travailler dans le foot gratuitement.
C'est pas possible, mais on a beau avoir la passion, aujourd'hui, c'est la concurrence, quoi.
Bah oui, parce que surtout quand on voit, il y a tellement les médias qui parlent des salaires et de l'argent qu'il y a dans le foot, tu dis, mais attends, je travaille dans le foot et je gagne rien. Et puis surtout, on en parlera un peu plus tard, t'es éducateur, tu peux être agressé, parce que c'est aussi tendu, tu prends la même charge de pression, d'agressivité que chez les pros, et pour que dalle, quoi, pour rien, donc ça pique, hein.
Ah, mais ça, je pense que la redistribution des revenus, c'est malheureusement ou heureusement toujours le débat, même au sein du football professionnel, à travers les différents silos du foot pro, à travers les différents départements au sein des clubs. Donc, trouver un modèle plus vertueux, effectivement, la vraie différence qu'il y a entre foot pro amateur, c'est que je pense que dans le foot amateur, on se dirige vers une urgence où effectivement, tu as peut-être pas un club comme Royal Malmaison, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui suffisamment de licenciés, il y a les infrastructures, etc. Mais tu peux aussi avoir des clubs qui disparaissent. Il y a eu la crise du Covid récemment, il y a pas mal de clubs qui ne se sont pas relevés de cette crise-là. Donc, trouver ce modèle un peu plus vertueux pour effectivement générer du revenu autour du club et pouvoir le redistribuer. Il y a la route professionnelle et la question que je voulais te poser, c'est la route un peu plus locale, c'est-à-dire engagée avec des acteurs locaux, des sponsors. Est-ce que ça, j'imagine que vous le faites déjà et que vous avez des sponsors, mais est-ce que ça, tu vois ça comme aussi une issue pour régler une partie des problèmes financiers des clubs amateurs de manière générale, à savoir, je vais consolider mon tissu de partenaires locaux pour venir injecter un peu d'argent dans mon club.
Depuis peu, on s'aperçoit, étant donné que, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si la mairie ne suit pas votre club,
c'est fini.
98% des clubs, ils mettent la clé sous la porte. C'est, encore une fois, on ne vit pas avec ses adhérents.
Ouais.
On ne vit pas avec ses adhérents, donc il faut des apports financiers. Donc, quand la mairie vous suit, tout va bien. Nous, c'est le cas, donc tout va bien. Après, le sponsoring, ça reste important, parce que ça permet d'étoffer ton budget, ce qui te permet de grandir, pour payer un peu plus tes éducateurs, pour donner un peu plus de primes, etc., etc. Mais malheureusement, ça revient tout le temps quand même sur le fait qu'on a besoin d'une masse financière, quoi.
Vous avez des entreprises là, qui seraient aux alentours de Rueil, où il faut aller chercher jusqu'à la Défense, qui pourraient investir dans la...
On essaye. Ouais. C'est... Après, le problème, c'est qu'il faudrait des gens à plein temps. Et encore une fois, après, c'est le chien qui se mord la queue.
Ouais.
Des gens à plein temps, nous, on doit les payer. Donc, c'est en espérant que ça travaille bien et que ça retombe derrière. Et ouais. c'est loin d'être évident, quoi.
Alternative football.
Comment vous arrivez à les convaincre les joueurs de venir et vous leur parlez d'un projet? Est-ce qu'à ce niveau-là, on parle de projet de 2-3 ans ou alors tout simplement, c'est la saison, quoi?
On est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux. À chaque fois, on sait, par exemple, ça reste quand même beaucoup de joueurs du club qui ont peut-être été à un moment ou un autre à l'extérieur, mais qui reviennent parce que, ils habitent dans le coin et ils connaissent Rueil. Donc aujourd'hui, ce qui les amène, c'est déjà l'environnement, le fait qu'on soit quand même à Rueil une équipe assez, un club assez familial et au bout d'un moment où il y a pas mal de partage, mais au bout d'un moment, on sait que pour attirer les meilleurs joueurs, il faut augmenter un peu ta prime de match. Et c'est... Nous, on essaye de trouver le juste milieu, quoi, être en adéquation entre le confort, la qualité de vie, une petite prime de match, histoire de ne pas avoir tous nos petits jeunes qui construisent leur vie et qui ont un petit boulot, mais qui viennent prendre un peu de plaisir au football et qui amènent une certaine compétence, leur donner une petite prime de match pour faire comme les autres, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au bout d'un moment, si t'es le seul club à pas payer, les joueurs, ils vont à côté, quoi.
Vous êtes en concurrence avec Boulogne, avec le Racing? Parce que tu me parlais de l'Atlético, ça c'est l'Île-de-France, mais dans le 92, moi j'entendais beaucoup parler de vous et en bien.
Oui, oui, bah, le Racing et l'ACBB. La seule différence avec le Racing et l'ACBB, c'est qu'au bout d'un moment, eux, ils ont mis une grosse restructure. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais j'ai déjà entendu des problèmes financiers dans ces clubs-là. Ce n'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, ils ont réussi à mettre leurs équipes de jeunes au plus haut niveau, ce qui leur amène à chaque fois une... Aujourd'hui, comme les gamins ne restent pas au club, dans les petits clubs, au bout d'un moment, ils veulent toujours voir plus haut. Donc, quand tu es au plus haut, c'est plus facile d'attirer. Quand tu fais une détection, aujourd'hui, nous, on fait une détection, on a 50 joueurs. La CBB ou le Racing, je pense, quand ils font une détection, ils ont 250 joueurs, et sur plusieurs jours.
Ouais, sur plusieurs.
Donc, forcément, ça les amène toujours à rester le plus haut possible. C'est dur de grandir, en fait.
Non, mais même...
Ou alors, sinon, il faut...
Même économiquement, ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que le seul revenu direct que tu peux avoir du monde pro, c'est les indemnités de formation. Si tu as des équipes de jeunes qui sont très haut dans la hiérarchie des compétitions, potentiellement, tu as plus de jeunes qui vont derrière être professionnels et tu pourras toucher plus d'indemnités. Mais je reviens sur ce que tu disais juste avant, sur le côté familial, parce que ce n'est pas une figure de style dans ton cas, parce que dans le club, je crois savoir qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont impliqués, c'est ça ? Donc, familial,
ouais,
c'est
ouais,
vraiment...
C'est on va dire c'est notre club, mais ma mère y est depuis 40 ans, mon frère aussi, donc on a toujours été à différents postes, mais c'est une deuxième famille, quoi.
D'accord. Et ce club, il a toujours été aussi gros ? C'est-à-dire, toi, tu le connais depuis 40 ans, est-ce que ça a toujours été un très gros club de la région parce qu'il y a du volume à Rueil et dans le coin, ou ça s'est graduellement imposé comme un club qui attirait de plus en plus de monde ? C'est quoi un peu l'histoire de...
Il y a un peu des deux. Au départ, c'était vraiment familial. Pour ceux qui connaissent, Eugène Saccomano a été président de Rueil Malmaison, figure, mais parce que c'est un Rueillois, quoi, tout simplement.
D'accord.
Et on a toujours eu des seniors à un niveau correct, au niveau régional, contrairement à d'autres clubs qui ont toujours été en district. Et puis après, à force de former, tu as des entraîneurs qui s'impliquent. On a, ouais, des éducateurs qui restent très longtemps chez nous. Okay. Parce que c'est assez sympa. Encore une fois, c'est le bon vivre ensemble, quoi. C'est Rueil ensemble, c'est vivre ensemble. On arrive à partager. Et puis, c'est quand même plus facile quand t'as un peu de verdure. Quand t'as un club à housse assez sympa, c'est quand même plus facile de partager, de créer des animations. La semaine prochaine, par exemple, on fait un loto. Et ce loto, les biens, c'est pour aller payer un déplacement à toute l'école féminine des jeunes, au niveau jeune. Mmh. Et ça reste familial.
Et ce phénomène dont parlait Edouard un petit peu tout à l'heure et que tu as mentionné sur le côté relation aux arbitres, relation aux éducateurs, la violence verbale, physique, qu'on voit plus aujourd'hui aussi parce que c'est plus exposé, parce que tu as des médias sociaux qui fait qu'autour d'un stade, dès qu'il se passe un truc, c'est filmé. Je sais pas si nécessairement il y en a plus qu'avant, parce que je me rappelle de ma vie de footballeur amateur,
il y avait déjà
pas mal de débordements. Déjà toi, en 40 ans de vie au club, est-ce que tu penses que ça s'est aggravé ? Et si oui, comment on peut régler ça ? Et si tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous sensibilisez les gens à faire en sorte que ça reste du sport amateur et que ce soit bon enfant ?
J'ai envie de dire que je ne vois pas forcément une grosse augmentation, sauf que comme tu dis, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est filmé, au bout d'un moment, on voit tout et on sait tout.
Ouais.
Après, il y a forcément des problèmes d'éducation, hein ? Mais je ne vois pas forcément une grosse augmentation. Maintenant, c'est comme on le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, ton équipe est liée à ton encadrement. Si tu n'arrives pas à cadrer, si tu n'arrives pas à donner des règles, ça devient compliqué. Pourquoi il y a des clubs dans le 93 qui réussissent ? C'est parce qu'au bout d'un moment, ils ont fait l'effort de mettre une vraie structure encadrante et que les gens sont cadrés. Au bout d'un moment, si tu ne cadres pas, que tu sois du 92, du 78 ou d'ailleurs, il y a forcément des débordements. Après, les réseaux sociaux font mal, quoi.
Et parfois, les débordements, c'est les parents, hein, qui partent en vrille. Il y a eu, deux, trois cas là, ces derniers temps où c'est les parents qui ont mis la pression un peu sur l'éducateur parce que le joueur, soit il n'a pas joué, je ne me rappelle plus moi. Mais est-ce que tu as été témoin de ça déjà, toi, pas à Rueil, mais...
Mais de toute façon, on le voit, même à Rueil, je sais pas, moi, quand je jouais ou quand j'encadrais, il y avait des parents qui encourageaient, qui criaient un peu. Mais là, c'est vrai qu'on voit que les parents sont de plus en plus violents et plus en plus exigeants sur leur enfant. Et au bout d'un moment, ça déborde. Ça déborde parce que au bout d'un moment, on te dit tu veux mettre ton gamin plus haut, mais déjà c'est pas le meilleur de l'équipe. Donc quand tu vois que le coach sort entre guillemets ton gamin, tu dis mais c'est quoi ? Alors au bout d'un moment, t'es tellement aveugle que tu dis l'éducateur c'est un tocard. Au bout d'un moment, je vais me le faire. plutôt que remettre en question sa vision et son enfant. Et ça, par contre, c'est plutôt inquiétant. Quoi.
Purée, c'est les mêmes problèmes qu'on a en professionnel.
Non, mais c'est l'une des années qu'on fait depuis le départ. Je trouve que t'as ces deux mondes qui sont différents, mais qui se rapprochent à bien des égards dans en fait les pratiques et dans ce qu'on voit arriver dans les comportements. Et c'est ça qui est, tu vois. Enfin, on parlait tout à l'heure des agents chez les gamins, mais j'ai un ami qui est président d'un club en Loire-Atlantique. Ils sont en district, mm-hmm. Et les mecs ont des agents.
Ah ouais, ça c'est fou.
En district. Pour négocier, avec tout le respect que je dois au football de district, et j'ai joué longtemps au football de district.
Mais t'as joué qu'en district, d'ailleurs, non ?
Pas que. Tu vas faire preuve d'un peu plus de respect, monsieur Cissé.
Non, mais...
J'ai joué en district, mais j'ai pas joué à l'OM, moi.
Mais t'as respecté...
Merci.
Tu respectes le foot. Tu sais que c'est bien, c'est un bon niveau.
Non, mais...
Pour en revenir 30 secondes, on reparlait des moyens. Vous avez le football amateur a besoin de moyens et on l'a bien vu que même le football professionnel a besoin de moyens et que sans moyens on peut rien faire. Donc c'est le football professionnel devrait se rendre compte que sans moyens on n'est rien.
C'est ça. Au bout d'un moment, c'est pour ça que moi comme je sais que les moyens ne viendront pas d'en haut, on essaye d'amener un cadre de vie assez sympa pour récupérer des gens. Et j'ai envie de dire que je lance presque un appel aujourd'hui. S'il y a des retraités à Hawaï qui aiment le foot et qui veulent faire quelque chose, ou des gens qui ont un peu de temps à donner parce qu'ils aiment le football et ils aiment encadrer les jeunes ou autres, ils sont les bienvenus au FCRM. Quoi.
Ouais, je te rejoins. Tu vois, les revenus, c'est le nerf de la guerre un petit peu partout, dans tous les milieux. On a tendance à se dire que c'est moins le cas dans l'amateur parce que les gens ont envie d'être là, c'est des bénévoles, ils accompagnent leur fils. Et ce qui est relativement inquiétant, l'excuse qu'on a, c'est que tu nous dis qu'en fait, c'est de moins en moins le cas et tu as du mal à trouver des bénévoles. Et le rôle social du club de foot de quartier et du club de foot de la ville, on a l'impression qu'il est menacé par le fait que la question de revenus, c'est aussi un vrai enjeu pour les clubs amateurs et qu'il faut aussi trouver des solutions pour que les clubs continuent de fonctionner.
Autant pour les clubs amateurs ont nécessairement besoin et obligatoirement besoin de moyens, autant pour les clubs professionnels, moi je pense sincèrement, ils ont besoin de compétences. Parce que l'argent, ils l'ont. Ouais, tu vois. Alors que c'est assez affligeant. Mais c'est vrai. L'argent, ils l'ont, mais ils ne savent pas comment le dépenser. Ils le dépensent très mal. Alors que les clubs pro et les clubs amateurs, ils fonctionnent avec des rustines. Et de temps en temps, ce serait bien qu'il y ait qui est autre chose.
Qui est des nouvelles roues.
Ouais, qui est des nouvelles roues, des nouveaux pneus. Enfin.
Je pense que la roue qui a modifié, c'est surtout la roue des intermédiaires. Il y a des intermédiaires qui vont chasser et qui vendent de la marchandise. Au bout d'un moment, avant, on ne pouvait rien faire quand on n'était pas assermenté au niveau agent. Mm. Aujourd'hui, tout se fait un peu partout, surtout
ouais,
à l'étranger.
Oui, parce qu'ils font mal en France. Mais normalement, tu dois avoir une licence. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de licence. Et le problème des clubs professionnels ou d'autres clubs acceptent de traiter avec des personnes qui n'ont pas la licence.
Mais ça, c'est pas normal.
Ah ben, ça, c'est carrément pas normal. Et c'est ça qui fout le bordel.
Alternative football.
Pour schématiser, ce que dit Jérôme, c'est grosso modo la commission de l'agent, elle va être, et t'es gentil, hein, mais je pense qu'elle va être un multiple de 3 ou 4 ou 5 de la prime de reversion du jeune club amateur. Et pour que l'agent, alors il va te dire oui, j'étais là, j'étais toujours là, j'ai parlé avec la famille, j'ai joué le rôle de grand frère ou quoi que ce soit. Et cet argent-là qu'il va capter aurait servi et servirait pour faire parfois une ou deux années de fonctionnement, budget de fonctionnement parfois. Mmh. C'est juste le club pro qui doit avoir du bon sens et se rappeler qu'il a commencé dans un club amateur. C'est le club pro. Le directeur sportif, une fois qu'il fait qu'il signe le chèque, qu'il a le joueur, il doit filer une partie de la com à l'agent et puis tout simplement dire bah, ta partie, il y a une partie qu'on a reversée au club parce que voilà, c'est en ça, surtout sur le premier contrat. Voilà, c'est tout simplement ça.
Et donc mais ça, j'ai l'impression...
C'est du bon sens. Hein.
Là, on parle même sur un sujet structurel du sport. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui doit être porté, si ce n'est par la Fédé, par le ministère, en disant aujourd'hui, on a un vrai danger sur la pratique du football ou de sport amateur parce que parce que les clubs ont besoin d'être mieux supportés financièrement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une implication à cet étage-là, j'ai envie de te dire, pour réguler les choses, ou est-ce que là, on fantasme ?
Non, franchement, moi, ça me fait flipper de devoir expliquer aux gens ce qui est conseillé de faire. Budget de fonctionnement, 600 000 euros, 500 000, 600 000 euros. Mais état, je ne sais pas combien de personnes à gérer. Enfin, tu as les déplacements quand vous allez à droite, à gauche. Et à côté de ça, tu as des... C'est toujours pareil, les salaires ou les transferts, c'est que dalle. je pense qu'il vous faudrait pas grand-chose. Il vous faudrait pas grand-chose pour être tranquille.
Exactement.
C'est une goutte d'eau.
On a l'impression que tu as vraiment un Chinese wall entre l'amateur et le professionnel et qu'il n'y a pas de suffisamment d'échanges pour trouver une solution au fonctionnement des clubs. Et je pense que c'est les problèmes auxquels tu es confronté, Jérôme, c'est comment on fait en sorte que l'argent qui existe dans le football, parce qu'effectivement il y en a, il soit redistribué de manière plus qualitative pour qu'on puisse continuer à développer de la pratique du foot partout en France.
C'est ça, hein, faut... Le partage, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je pense que la France aujourd'hui est l'un des pays qui exporte le plus de joueurs à l'étranger.
Deuxième pays exportateur.
Hein, derrière le Brésil. En tout cas en Europe, en Europe c'est clair, et même au niveau mondial, c'est énorme. Je pense que demain, ce ne sera plus le cas. Quoi.
Je suis juste plein d'ailleurs, la région du monde, on ne parle plus de pays, mais de région qui produit le plus de footballeurs professionnels aujourd'hui, c'est la région parisienne, c'est passé devant la région de Sao Paulo. Alors en termes de footballeurs total, le Brésil reste devant la France, mais en termes, si on zoome, donc ça rejoint ce qu'on disait. Ouais. Alors on a quand même un exemple proche de nous, de quelqu'un qui est passé par un club amateur et qui a fait une carrière... plutôt réussi, c'est Monsieur Cissé. Mm. Donc je voulais revenir sur ça avec toi, c'est-à-dire que toi tu es resté à Pau jusqu'à ton premier contrat au Paris Saint-Germain.
Ouais.
À Pau, c'était un club amateur à l'époque, c'était pas le Pau.
Ouais, c'est un club amateur. Ouais.
Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là et en quoi, selon toi, ça a été différent d'être formé à Pau et de ensuite partir au PSG plutôt que d'avoir suivi le chemin un peu plus traditionnel?
Non, moi, c'est...
je suis détecté à 12 ans, je vais en centre de formation et je passe en équipe
première.
Parce
que c'est le loisir, c'est le plaisir. C'était moi, jusqu'à 16 ans, je jouais en district. D'accord? Donc c'est pour ça, quand tu me parlais de meilleur ou quoi que ce soit, quand j'entends des enfants à 12 ans, je me dis, mais laissez-le tranquille. Moi, j'ai joué jusqu'à 16 ans en district. Voilà. Je prenais du plaisir, j'étais avec mes potes, on prenait des casquettes, 6-0, 3-0, mais je m'en fichais. Et puis à 17 ans, bon, j'étais quand même relativement bon, donc j'ai fait district, NAS, U17 nationaux. Et ça a bien fonctionné, mais globalement, moi, c'est le plaisir, c'est l'envie. Je peux pas dire que j'étais formé. J'ai pas été formé parce que j'ai pas été formaté. Tu vois, Donc, on me donnait 2-3 notions, et puis après, au fur et à mesure, c'est au bon vouloir, mais. Tous les déplacements qu'on faisait, c'était une location, c'était avec l'équipe première, c'était une location de 3 vannes pour pouvoir transporter les joueurs. C'était des frais, hein, c'est-à-dire que c'était parfois l'entraîneur adjoint qui conduisait, ou le médecin qui conduisait les voiturettes, c'était des voyageurs, là, donc on en louait 3. Enfin, c'est des frais. Et très tôt, je posais la question, mais c'est qui les paye? Ben, c'est nous qui les payons. Et de temps en temps, quand on gagnait le match, tout le monde était content. On pouvait pas avoir la prime de suite. C'était un ou deux mois après. Enfin, c'est tous ces paramètres-là. Mais après, c'était les débuts du football professionnel après 98. Donc, c'est pour ça que je suis sensible à toutes ces problématiques-là. Je sais les frais que demande un club amateur. Et aussi, après, j'étais au milieu professionnel où j'ai su aussi tout l'argent qu'il y avait. Et je sais le discours qui est parfois tenu. Ouais, mais les amateurs, ça va, on leur file de l'argent. Oui, c'est pas leur filer de l'argent, mais c'est combien vous leur filez? Combien on leur donne? C'est pour ça que depuis le début, ça fait pas mal de temps que je suis pour une ligue fermée. Franchement, que des professionnels. Et après, réguler une somme d'argent, mais à l'année, à filer au monde amateur. Et après, vous débrouillez comment vous le dépensez, vous structurez comme vous voulez, mais au moins chaque année. Chaque année, c'est régulé, vous avez ce montant-là. C'est super important, parce qu'on parle de la région parisienne, on parle du bassin parisien. Si Rueil Malmaison, vous n'avez pas les capacités d'encadrer correctement les joueurs, purée, imagine dans les petits patelins, dans le Cantal, ou je suis jamais dans le Cantal, mais globalement, dans ces petits patelins-là.
Et on parle de pistes d'amélioration, il y a une autre réflexion qui est amenée par Maxime Marchand, la conscience d'Alternative Football, qui me rappelle ce qu'avait mentionné Mathieu Bodmer dans SoFoot. Il parlait aussi de la réflexion à mener sur les compétitions et les horaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des matchs de foot à 13h le dimanche, à 15h le dimanche, alors que c'est à ces moments-là que le foot, ou le samedi, c'est à ce moment-là que le foot amateur est joué. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder, selon toi, Jérôme, à savoir, il faut essayer de ne pas faire clasher les moments de sport foot professionnel qu'on va consommer en tant que fan et les moments de foot amateur qu'on va consommer en tant que pratiquant?
Je crois que c'est clair. Moi, j'ai été supporter, hein, supporter et toujours du Paris Saint-Germain et encore plus à l'époque d'Edouard.
Bravo.
Au bout d'un moment, on jouait le dimanche après-midi et quand on allait au Parc des Princes le samedi soir ou le dimanche soir, c'était top, quoi. Mmh. C'est sympa, c'est journée foot. De toute façon, t'aimes le foot, tu manges foot toute la journée, c'est pas un problème. C'est même un plaisir. Et c'est vrai que quand tu vois, moi qui suis dans le foot amateur depuis plus de 30 ans, tous les après-midi... entre et encore, il y a même des fois le matin, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire non plus. Mais en l'occurrence, l'après-midi, ça joue de 13h jusqu'à 17h. Mais on ne peut pas... comment on ne peut pas pour être encore plus sur du concret, j'étais abonné au PSG. En étant dans le foot amateur, ben, quand ils jouaient l'après-midi, ben, je ne pouvais pas aller les voir.
Ouais.
Quand ils jouaient le vendredi soir, je ne pouvais pas aller les voir. Donc j'y allais que le dimanche soir.
Mais tu sais que nous, les joueurs, on n'oublie pas par où on est passé. Et donc, il faudrait que de temps en temps, que les clubs amateurs acceptent et prennent le courage de recontacter ces joueurs-là. Parce que parfois, avec les années, on oublie. Parce qu'on n'oublie pas, en fin de compte. Enfin, on n'oublie pas par où on est passé. On n'oublie pas les bons moments. On n'oublie pas tous nos éducateurs qui nous ont aidés. Et parfois, justement, c'est le mode amateur qui devrait être acteur un peu, secouer les choses. Parce que sinon, si on attend après le monde pro... Il est selfish, le monde pro, et bon, après, il est comme il est. Mais le monde amateur peut de temps en temps, devrait prendre les choses en main un peu et apporter des alternatives, des solutions.
Parfait. Jérôme, merci beaucoup.
Merci
C'était
à vous.
C'était un plaisir de te recevoir. On va suivre avec attention la bataille pour la montée en R2.
Avec plaisir.
Ciao, Jérôme.
Alternative football. Alternative football.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.